Bien, nous allons maintenant continuer notre étude, voyage à travers l'évangile selon Marc. Et je me réjouis quand même que ce matin, beaucoup de choses ont été dites. Et le message aujourd'hui, je pense, il va reprendre un peu ce que nous avons partagé ce matin. Je vais revenir sur une parabole, je retourne en arrière. Pour la simple raison, c'est que nous avançons dans l'évangile de Marc, et il me semble que cette parabole n'a pas été traitée. Donc, comme nous avons appris à ne rien négliger, eh bien, on revient sur cette parabole du grain de moutarde, si vous voulez, du grain de senvé. Mais je vais commencer d'abord par la prière. Seigneur notre Dieu, c'est toujours une joie que de rentrer dans la vie de ta parole. Tu es la parole. Merci pour cette matinée, merci pour tout ce que tu as voulu partager avec nous. Aide-nous à apprendre à garder ce qui vient de toi dans le cœur, que ne soyons pas oublieux, et que c'est quelque chose qui nous accompagne tous les jours pour laisser l'Esprit Saint nous transformer et nous faire vivre, nous faire rentrer dans cette vie spirituelle que tu cherches dans ton Église. Apprends-nous l'humilité, la simplicité, la remise en question, pour être à l'écoute les uns des autres. Laissons ta parole nous éclairer par l'Esprit et rien d'autre. Je remets entre tes mains ce message qui puisse éclairer l'orateur d'abord, mais éclairer l'Église. Et l'essentiel, c'est que nous soyons sur le même chemin ensemble, jusqu'au bout, jusqu'au jour. Quand tu viendras chercher ton Église, nous nous reconnaîtrons ensemble, comme faisant partie de cette Église que tu viendras chercher. En ton Saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je viens de vous dire, donc nous allons découvrir, redécouvrir la parabole du grain de moutarde, du grain de senvé. C'est l'une des plus petites graines, en fait. Et pourtant, quand elle pousse, ça fait une grande plante qui vient nourrir les oiseaux. Vous avez bien compris qu'il s'agit de croissance indispensable pour l'Église. Nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens enfants, mais tout enfant de Dieu est destiné à devenir adulte en Christ. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on se remette devant le Seigneur et dire qu'est-ce qui ne va pas. Parabole du grain de moutarde. Alors, je vais vous donner tout de suite le résumé de ce que nous allons, je dirais, explorer ensemble. Mais lisons d'abord ce passage. Marc, chapitre 4, versets 30 à 32. Il dit encore, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de senvé, grain de moutarde, si vous voulez, qui lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. J'ai utilisé avec Manuel. Donc, à travers cette parabole, nous pouvons, j'irai, en tirer quelques enseignements. Alors, je partage avec vous ce plan, qui est un cheminement. D'abord, la parabole du grain de moutarde parle de la croissance spirituelle, petite devient grande. Mais cette grain de moutarde nous fait voyager pour faire le lien avec une autre parabole que le Seigneur a citée, le grain de blé. Et donc, ce grain de blé, il est question de mort à soi-même pour porter du fruit. Pourquoi cette croissance, cette mort à soi-même, justement, pour réellement voir spirituellement Jésus. Pas physiquement, mais spirituellement Jésus. La vision spirituelle, indispensable, si indispensable, et qui passe par la repentance, est l'œuvre de l'Esprit Saint. Nous découvrirons ensemble l'importance du brisement à travers l'œuvre de la croix qui nous libère, qui nous fait rentrer dans la vie spirituelle, et nous conclurons par les fruits de tout ce cheminement. Dans Marc 4, 30 à 32, que nous venons de lire, Jésus compare le royaume de Dieu à une graine de moutarde, petite graine. La plus petite de toutes les graines, qui devient par la suite une grande plante, voire un arbre, offrant un abri pour les oiseaux. Le royaume de Dieu, il s'agit ici, et on l'a déjà traité, le royaume de Dieu. C'est le lieu, on a dit, où Dieu règne. C'est ça le royaume de Dieu. Le lieu où Dieu règne. Ce lieu, nous savons maintenant, c'est nous-mêmes. Dieu veut régner en nous. Ce lieu, c'est ce que la Bible appelle le cœur de l'homme. La Bible l'appelle aussi l'esprit de l'homme. Donc, s'il est question de règne de Dieu, pas ailleurs, c'est en nous qu'il veut régner, il veut devenir roi. Luc, chapitre 17, verset 21, nous lisons, « Le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Je ne suis pas trop d'accord avec cette traduction qui est réduite. Je vous propose une traduction plus précise et plus explicite. « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Il n'est pas question au milieu, parce qu'au milieu, ça va être entre nous. On est là, il est entre nous. Non, il est au-dedans de nous, c'est-à-dire en chacun de nous. Donc Dieu veut établir son royaume au plus profond de nous-mêmes. Ne cherchons pas ailleurs. Au-delà de notre apparence physique, au-delà de nos différentes cultures, au-delà de nos origines, il veut faire son habitation en nous, dans notre cœur, dans notre esprit. C'est-à-dire dans notre être intérieur, invisible, que nous ne voyons pas, et que la Bible appelle l'esprit de l'homme. D'ailleurs, ce lieu qu'on appelle esprit de l'homme, ou le cœur de l'homme, est un lieu créé justement par Dieu dès le début de l'humanité. Dans le premier Adam, Dieu a créé cet esprit de l'homme. Et nous le lisons dans Genèse, chapitre 2, verset 7, je lis. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Voilà ce souffle qui crée un vide dans l'homme qu'on appelle l'esprit de l'homme. Mais qui dit vide, il doit être comblé ce vide. C'est en quelque sorte un souffle, mais en soufflant, Dieu a créé le lieu qui doit recevoir son Esprit Saint. C'est un vide spirituel destiné à recevoir l'Esprit de Dieu et l'Esprit Saint le moment venu. Il a fallu attendre la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Maître, pour voir s'accomplir cette promesse divine. Combler et remplir l'Esprit de l'homme, créé justement pour cela, par l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous lisons dans Jean, chapitre 20, versets 21-22. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Voilà le projet de Dieu qui se réalise. Et dans la Bible, nous ne trouvons que deux souffles soufflés quelque part. C'est le premier de la Genèse et celui que Jésus a fait sur ses disciples. Nous voyons que la destinée de l'homme est de recevoir l'Esprit de Dieu. Si nous ne recevons pas le Saint-Esprit, nous demeurons aliénés, inachevés. D'ailleurs, c'est l'Esprit Saint de Dieu et de son Fils Jésus-Christ qui atteste à notre esprit que Dieu a établi son règne en nous et qu'il fait de nous ses enfants. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si vous cherchez à savoir est-ce que vous êtes enfant de Dieu ou pas, eh bien, vous avez reçu l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint témoigne à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Ce ne sont ni mes paroles, ni les paroles de frères et sœurs. L'Esprit Saint témoigne à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. L'Esprit Saint, qui est l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, est dynamique. Il est dynamique. Il ne demeure pas en nous d'une manière inactive. Avec notre consentement, et j'insiste sur le fait, avec notre consentement, Parce que souvent, on néglige notre responsabilité. On dit, oh Dieu, il fait ce qu'il veut, Inch'Allah. Voilà. Non, notre consentement, il œuvre en nous à travers une transformation et une métamorphose progressive dans l'outil spirituel par excellence et la croix de notre Seigneur. Voilà une croix que nous essayons de balayer, même dans le milieu chrétien, on essaie de mettre à côté. Je ne parle même pas d'autres religions qui l'anéantissent, qui la fassent disparaître, voire la minimiser. La croix est centrale dans la vie chrétienne. Nous commençons tout naturellement notre marche avec le Seigneur comme des enfants et nous devons cheminer aussi tout naturellement vers l'état d'homme fait. Et la Bible nous dit, nous devons cheminer vers l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction. Je n'ai fait que lire Éphésiens, chapitre 4, versets 13 à 14. Un chrétien doit cheminer vers la maturité spirituelle. S'il y a quelque chose qui entrave ce cheminement, il faut se poser des questions. C'est ce processus de croissance que renferme la parabole du grain de moutarde. Cette parabole illustre le début de la foi chrétienne, qui peut paraître insignifiante, et c'est normal. Au départ, mais avec le temps et la grâce de Dieu, croit, je dirais même doit croître, et pour qu'on puisse devenir des chrétiens fait à la stature de Christ. Le grain de moutarde est un symbole, allez, on va dire, de notre petitesse dans la foi, ou de notre petite foi, si vous voulez, qui, même si elle commence de manière modeste, a le potentiel de produire une grande transformation dans la vie du croyant dans le monde. Cette petite graine, une fois plantée, prend racine et grandit. C'est notre croissance spirituelle. Mais j'attire votre attention tout de suite. Si je prends le tout, je prends cet arbre, il est déjà contenu dans la graine. Quand je mets la graine, elle devient arbre. Mais si je prends le tout, il est déjà, l'arbre est déjà dans la graine. Mais seulement pour qu'il devienne arbre, il y a tout un processus qu'il faut suivre. Laissez l'esprit nous conduire justement. Cette graine est passée par plusieurs étapes. On l'a enterrée, c'est la mort. Et pendant la mort, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est démantelée. Et après, elle s'est réassemblée avant de ressusciter et croître. Et souvent, on cherche la croissance, mais on oublie la mort, le démantèlement, parce que c'est des choses que la nature humaine n'aime pas. Le processus de croissance spirituelle est un processus de transformation intérieure qui passe par plusieurs étapes où l'humilité et la repentance mène vers la transformation qui est rendue possible par l'Esprit. L'Esprit Saint joue un rôle crucial dans ce processus. Ce parcours est l'expression de la manière dont Dieu agit dans la vie du croyant, donc dans chacun de nous, en partant d'un simple acte de foi jusqu'à une maturité spirituelle qui reflète davantage Christ dans toutes les dimensions de notre existence. Et c'est cette maturité spirituelle qui peut rappeler à l'ennemi, au diable, sa défaite, pas l'enfant. Et tant qu'on est enfant, on ne pourra pas rappeler correctement au diable sa défaite. Parce que je lui rappelle sa défaite, y compris dans ma vie, et pas seulement en parole. La parabole du grain de moutarde est en lien direct avec une autre parabole, celle que vous connaissez, le grain de blé. Et le Seigneur l'a cité juste avant. Donc le grain de blé, il représente cette mort à soi-même pour porter du fruit. Regardez, nous lisons cette parabole que le Seigneur a citée. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. S'il ne meurt pas, il n'y a pas de fruits, mes frères et sœurs. Je peux rester chrétien sans passer par la mort, sans abandonner mes priorités, garder mon orgueil, garder mes intérêts, sans, et je reste une graine qui ne sort pas de la terre. Le grain de moutarde n'est que l'introduction de l'idée de la croissance spirituelle. Et quand Jésus utilise l'image du grain de blé, c'est pour approfondir ce principe inhérent à toute vie chrétienne, sans lequel il n'y a pas de vie chrétienne, mes frères et sœurs. Il s'agit de la mort et de la résurrection. C'est-à-dire notre transformation spirituelle qui se fait d'abord à l'intérieur avant de jaillir à l'extérieur. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Cette métaphore du grain de blé est essentielle dans la compréhension du cheminement chrétien. Jésus ne parle pas ici de la mort physique, mais de la mort à nous-mêmes. Nécessaire pour que la vie spirituelle puisse émerger et porter des fruits. Souvent, on cherche les fruits, mais sans passer par la mort. Le grain de blé qui tombe en terre et meurt représente l'abandon dans notre ancienne nature. Notre ancienne nature pécheresse et qui veut se maintenir dans notre vie chrétienne. C'est ça la subtilité de la vie chrétienne. C'est le processus de renoncement à soi-même, le renoncement à nos priorités. Ce qui est fondamental dans la vie chrétienne, c'est ce cheminement de renoncement. Ce processus que j'appelle brisement du cœur humain est nécessaire pour que le chrétien puisse être transformé à l'image du Christ. Le Christ lui-même est passé par la croix. Pourquoi dois-je, moi, négliger la croix? Ce n'est qu'en acceptant de mourir dans l'obéissance et dans la soumission au Seigneur que le croyant peut réellement expérimenter la vie de Dieu et porter du fruit. Le fruit dans ce contexte ne se réfère pas simplement à des actions extérieures, mais à une transformation intérieure profonde où l'Esprit Saint, agissant dans le cœur de l'individu, produit les fruits du royaume de Dieu. Ces fruits, l'apôtre Paul nous les a cités. Et ces fruits sont la conséquence d'une transformation, d'une mort et d'une résurrection. Pas des fruits qui tombent comme ça. Sinon, ils resteront des fruits humains. À la moindre épreuve, ils disparaîtront. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce processus implique une mort à soi-même. La chair ne l'aime pas. Et c'est pourquoi nous l'annonçons ce matin. Une mort à ses priorités, une mort à ses droits, une mort à l'orgueil, une mort à l'égoïsme, une mort au péché et à toute forme d'attachement aux choses de ce monde. C'est un prix à payer. Mes frères et sœurs, si on vous prêche un christianisme sans la croix, sans le renoncement, ne l'acceptez pas. Il n'y a pas de vie chrétienne sans croix au centre. Et sur cette croix, il y a le Seigneur Jésus-Christ, crucifié, mais ressuscité. Dans ce processus, là je rejoins notre partage de ce matin, dans ce processus, l'épreuve et la souffrance qu'elle peut engendrer jouent un rôle important dans cette transformation. Car elle brise le cœur endurci et permet à la vie spirituelle de se manifester. Je peux vous citer tellement d'exemples dans la Bible, si ce n'est toute la Bible est basée sur cette mort et cette résurrection et la place de l'épreuve qui génère la souffrance. Je peux vous parler de Job, qui a perdu tout ce qu'il possédait, y compris son corps, qui souffrait. C'est au cœur de l'épreuve qu'il a déclaré « Mon oreille avait pas entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Je vais vous parler de Joseph, qui a subi l'injustice de la prison, mais ses preuves qui l'ont préparé pour devenir l'instrument de Dieu pour sauver son peuple. Je peux vous citer David, le roi David, a été traqué, persécuté avant de devenir roi, ce qui a forgé son cœur selon Dieu. Je peux vous citer l'histoire de Moïse, de Jonas, de l'apôtre Paul, de Pierre, Oui, je peux vous citer tellement d'exemples, tous, point commun, la croix au centre et l'épreuve qui mène vers le renoncement à soi-même et vers la résurrection. La mort à soi-même, symbolisée par le grain de blé qui meurt pour porter du fruit, est essentielle pour la véritable croissance spirituelle. Ne cherchons pas loin, mes frères et sœurs, si dans nos églises, il n'y a pas de croissance. Parce qu'on a balayé la croix. On ne veut plus passer par ce renoncement. On veut avoir une vie heureuse. Une vie où tout va bien. Une vie de miracle. Une vie... Mais on oublie la mort à soi-même. D'ailleurs, à quel moment le Seigneur a évoqué la parole et la parabole du grain de blé? C'est très intéressant. Pourquoi est sortie cette parabole du grain de blé qui doit mourir pour porter des fruits? Lisons ensemble à quel moment il a dit ça. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe, à Bethsaida, en Galilée, et lui dirent avec insistance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Ils voulaient voir Jésus. En vérité. Et là, le Seigneur, plus loin, il leur dit la réponse. Au lieu de leur dire, « Laissez-les attendre, faites-les rentrer. » Non. Il a donné une réponse un peu qu'on ne comprend pas. Parce que le Seigneur, quand il parle toujours au niveau spirituel. Quand ils ont dit, « Nous voulons voir Jésus », le Seigneur, il a dit, « Ils veulent voir le Seigneur, le Fils de Dieu, au niveau spirituel. » Alors, il leur a répondu, « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Voir Jésus, la vision spirituelle par la repentance et l'œuvre du Saint-Esprit. S'il voulait voir Jésus, si nous cherchons à voir Jésus d'une manière spirituelle, humaine, de toute façon, on ne le connaît pas humainement, historiquement, il n'est plus là physiquement, on le connaît par l'Esprit Saint. Mais si on veut le connaître intérieurement de l'Esprit en nous, il n'y a qu'un chemin, le chemin de la mort et de la résurrection, et qui commence par la repentance. Voilà un mot encore, il faut balayer. L'un des grands désirs des croyants est de voir Jésus. Il y en a qui le cherchent à le voir dans les miracles. Il y en a qui voient que les effets dans leur vie. Il y en a qui cherchent de voir Jésus par le savoir, par la théologie. Le Seigneur répond, non, pour me connaître, il faut passer par la mort et la résurrection. Et ça ne s'en prend pas dans notre monde. Mais cette vision spirituelle ne concerne pas une perception physique ou théologique du Jésus. La vision de Jésus dans la vie du croyant est avant tout une vision spirituelle. Celle d'une relation intime et personnelle avec le Christ. Cependant, cette vision spirituelle ne peut se réaliser que par un processus de transformation intérieure qui nous prépare à recevoir le Christ par révélation. Jésus nous invite à une vie de foi où l'on ne se contente pas de chercher des bénédictions, des expériences spirituelles, mais l'on le cherche à le connaître lui et lui seul. Ce désir de voir Jésus, de le connaître davantage, se lie directement à l'idée de mort à soi-même, symbolisée par les grains de blé. En effet, voir Jésus ne signifie pas simplement rechercher ses bienfaits dans ma vie, mais plutôt de rentrer dans une communion intime avec lui. Et pour rentrer dans une communion avec lui, il y a une transformation que l'Esprit Saint fait en moi. Parce que je découvre un autre monde que le mien. Vous voyez, quand on rentre dans la vie spirituelle de communion avec le Seigneur. Ce chemin de transformation en chacun de nous en tant que chrétien commence, mes frères et sœurs, par la repentance. Et la repentance est un don de Dieu, un acte divin qui permet à l'individu de se détourner de son péché, de s'humilier devant Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, se détourne de mes voies, souvent on confesse, mais je ne change pas, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je fais exprès de mettre, s'humilier, chercher sa face, se détourner de ses mauvaises voies. Voilà les trois conditions de le chemin du chrétien. Un, ce qui manque, et je resterai à côté du chemin que le Seigneur veut. L'humilité, chercher ma face, ce qu'on a dit, chercher le Seigneur. Est-ce qu'on le cherche dans la prière tous les jours? Dans la méditation? Et en même temps, je hais tellement le péché que je m'en détourne. À ce moment-là, il dit, j'exaucerai. Je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Je fais autrement. Si le Seigneur n'exauce pas les prières, je peux me permettre de le dire. Si le Seigneur n'exauce pas mes prières, je retourne en arrière. Est-ce que je m'humilie? Est-ce que je cherche ma face? Sa face? Est-ce que je me détourne des mauvaises voies? Oui, on peut simplement lire ce passage, il nous éclaire très facilement. Le mot grec traduit par repentance, d'accord, dans le Nouveau Testament, est métanoïa. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire changement radical de pensée et de direction. Voilà la repentance. C'est pas confesser seulement, si c'est une facette de la pièce. L'autre facette, c'est changer radicalement de pensée et de direction. Jésus commence son ministère pour rappeler ceci. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La repentance nous amène à voir notre état réel devant Dieu, à reconnaître notre faiblesse et notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. Il nous incite à nous abandonner entièrement à Christ. Le chemin du grain de blé qui tombe et meurt commence par une véritable repentance. La vraie repentance n'est pas seulement le regret du péché, mais l'acceptation de notre totale dépendance à Dieu en changeant radicalement et totalement de direction. C'est dur à dire, mes frères et sœurs, je me le dis à moi-même, mais la parole est claire. On essaie de définir comme une autre façon pour s'éloigner d'eux. Non, il faut changer radicalement de façon de vivre si nous sommes convaincus que nous sommes dans le péché. La repentance est l'acte par lequel nous choisissons de laisser Christ vivre en nous à la place de notre vieille nature. La repentance est essentielle dans le processus de voir Jésus. Si nous voulons voir spirituellement Jésus, passons, mes frères et sœurs, par la repentance. Ne perdons pas de temps. Plus le temps perdu, plus les années passent, plus hop, il viendra un jour, on dira, mais j'aurais dû avant. Pourquoi perdre tout ce temps-là? Sans repentance, il est impossible d'entrer dans une relation profonde et personnelle avec le Seigneur. La repentance en tant qu'acte spirituel permet à l'Esprit Saint de briser l'endurcissement de mon cœur humain et d'ouvrir mes yeux spirituels pour que je puisse voir Jésus dans sa gloire. Ce processus est un acte d'obéissance et de soumission à l'action d'esprit qui nous éclaire, nous guide et nous permet de discerner la volonté de Dieu dans notre vie. Néanmoins, mes frères et sœurs, néanmoins, l'homme, je vais nous défendre quelque part, je vais nous défendre. Néanmoins, l'homme, par sa nature corrompue, par son état de mort spirituel, est incapable de se repentir par lui-même. Et là, tout le monde est soulagé. La repentance authentique est un don de Dieu. Même la repentance, c'est Dieu qui la donne. Rendue possible par l'action du Saint-Esprit. L'homme est incapable, par ses propres forces, de se tourner vers Dieu. Il a besoin d'être réveillé, régénéré par l'Esprit de Dieu. Vous allez me dire, c'est plus là, on est plus rien. Mais mes frères et sœurs, si vous avez reçu l'Esprit Saint, ces questions ne se posent plus. Cette question se pose pour les gens qui sont dans le monde, qui n'ont pas l'Esprit Saint. Ils sont incapables de se repentir. Mais nous sommes chrétiens. Nous avons l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint nous convainc de péché. Lisons ensemble. Et quand il sera venu, l'Esprit Saint, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Est-ce que l'Esprit Saint vous a convaincu de péché? La question que nous devons nous poser. Dieu accorde la repentance. Mais, c'est là la responsabilité de l'homme. Mais l'homme peut résister à l'action de l'Esprit. Voilà le piège. Ça veut dire, nous pouvons résister à l'action du Saint-Esprit. Acte 7, verset 51. Homme, ô courède, incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Donc on peut, en tant que chrétien, on peut résister au Saint-Esprit, alors qu'il veut faire son œuvre en nous. Hébreux 3, 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je peux ajouter d'autres versets si vous voulez. Il y en a tellement. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé l'attire. Certes, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Donc ça vient de Dieu. Mais l'Esprit Saint nous convainc de pécher. Mais si nous résistons à l'Esprit Saint, je continue à vivre ma vie en tant que religieux sans transformation dans ma vie. Il faut qu'ils redressent avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. L'Esprit nous interpelle, mais nous devons répondre avec un cœur humble. Si nous résistons continuellement, mes frères et sœurs, nous risquons de rester aveuglés durant toute notre vie, soi-disant chrétienne. C'est pourquoi nous devons prier. Voilà la solution où elle est. Prier, chercher le Seigneur et par son Esprit, il nous éclaire. Nous devons prier pour que Dieu nous accorde un cœur brisé et repentant et ne pas résister à son appel. Dans ce contexte, les épreuves, encore les épreuves, mes frères et sœurs, jouent un rôle fondamental. Ce sont souvent dans les moments de souffrance et de lutte que Dieu brise notre orgueil et notre dépendance, et je vous le dis par expérience. Et nous conduit vers la repentance. Jamais je ne me suis repenti que devant l'épreuve et pendant l'épreuve. Les épreuves servent à purifier notre cœur et à préparer le terrain pour une rencontre plus profonde avec Dieu, permettant ainsi à l'Esprit Saint de nous révéler la gloire de Christ. Elles sont des instruments divins qui nous amènent à comprendre le plan dans lequel le Seigneur nous appelle. Dieu permet les épreuves. Oui, Dieu permet les épreuves par amour. Mais si nous refusons de nous humilier, nous risquons de nous endurcir encore plus. Prenez l'exemple, mes frères et sœurs, de Pharaon. Dieu envoie des fléaux pour pousser Pharaon à laisser partir son peuple. Mais à chaque fois, il y a un semblant de repentance, mais il revient. Et à chaque épreuve, Pharaon s'endurcit davantage, au point qu'il comprend même plus ce que ça veut dire la repentance. Deux réactions devant les épreuves. Soit on s'humilie, on se repent, on se tourne vers Dieu et être restauré, soit on s'endurcit, on refuse Dieu, on s'éloigne davantage et on rentre même en procès avec lui et on tombe dans l'aveuglement spirituel. L'œuvre de la croix. Voilà ce brisement qui se présente à nous comme quelque chose qui fait peur et pourtant c'est un acte d'amour. Le brisement est un aspect central du cheminement chrétien qui se manifeste par l'acceptation de la croix. Comme des grains de blé, laissant l'Esprit Saint nous faire cheminer à travers la mort à nous-mêmes. Car étant brisé, les chrétiens peuvent laisser toute leur richesse spirituelle s'épanouir. Et ainsi le Seigneur peut se refléter à travers notre vie. Nous sommes brisés, mais c'est le Seigneur qui prend la place. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un aspect clé du brisement nous réalise, parce que nous, et la réalisation qu'en Christ, nous avons tout. Dans la fournaise de l'épreuve, nous avons une paix surnaturelle. Et nous réalisons que nous avons tout en Christ. Nous avons déjà toutes les bénédictions spirituelles. Nous ne devons pas chercher plus de foi, plus de paix ou plus de patience comme des choses séparées, car nous réalisons que nous avons tout. Ce tout, c'est Christ. Cependant, c'est par la croix, à travers le brisement et l'humilité, que cette richesse spirituelle devient réelle et visible dans notre vie. Le brisement que Dieu permet dans notre vie à travers les épreuves nous permet de réaliser que nous n'avons pas besoin de chercher des bénédictions spirituelles. Nous n'avons pas besoin de chercher des bénédictions extérieures, mais plutôt de découvrir la vie en Christ qui réside déjà en nous. Et je vais partager avec vous une dame qui est venue voir Watchmani. Je le cite assez souvent maintenant. Watchmani avait été invitée à aider une sœur qui insistait sur le fait qu'elle avait besoin de plus de patience. C'est pas vrai? Non, voir Watchmani qui prie pour elle. Elle expliquait au frère Watchmani toutes les fois où elle perdait son sang-froid et comment terriblement elle se comportait. Elle a prié plusieurs fois pour recevoir la patience, mais en vain. Alors elle a demandé au frère Watchmani s'il était d'accord pour prier avec elle, lui, l'homme de Dieu, pour que Dieu lui donne la patience indispensable pour tout chrétien. et surtout pour qu'elle ne perde plus son sang froid. Le frère Otchmani lui dit, je ne peux pas faire cela. Mais qui est cet homme de Dieu qui répond à cette sœur qui en a besoin dans la prière, lui dit, je ne peux pas prier pour toi pour la patience. Ah, étonnée, elle lui demanda, mais pourquoi? Il lui répond, parce que je peux vous assurer que Dieu ne répondra pas à ma prière, ni à la tienne. Oula, cette sœur s'est fâchée. Vous voulez dire que Dieu ne répond pas à ma prière car je suis allé trop loin, au point qu'elle ne répond plus à toutes mes supplications? Non, ma sœur. Ce n'est pas pour cela que je veux dire ça, répliqua le frère Otchmani. Ce que je veux dire, c'est que Dieu ne vous donnera pas plus de patience parce que vous n'avez aucunement besoin de patience. Mais ça va pas. Maintenant, la femme était presque hors d'elle, en colère. Il est en train d'expérimenter carrément l'absence de patience. Que voulez-vous dire par n'avoir aucun besoin de patience? Je perds toujours mon sang-froid, je suis impatiente et j'agis d'une façon des plus regrettables et je le sais. Comment pouvez-vous me dire vous n'avez pas besoin de patience? Et là, Otchmani lui répond, « Chère sœur, répondit calmement le frère Otchmani, « ce n'est pas de patience que vous avez besoin, c'est de Christ. » Vous voyez, on cherche les choses, alors que le Seigneur dit « cherchez-moi ». On cherche les miracles, le Seigneur dit « cherchez-moi ». On cherche, que sais-je, chercher le Christ, parce qu'en lui, nous avons toutes choses. Si nous cherchons les choses séparément du Seigneur, soit on les a, mais de manière humaine, soit on les a jamais. Mais quand on cherche le Christ, il vient entièrement en nous par l'Esprit. Et lui, il est patient. Lui, il aime. Lui, voilà. C'est lui qui doit aimer à travers nous. C'est lui qui doit être patient à travers nous. Mais pas nous, parce qu'on sépare les choses. J'ai trouvé très parlantes ces paroles de Otchmani. En conclusion, mes frères et sœurs, la parabole du grain de moutarde et l'image du grain de blé et le désir de voir Jésus nous révèle que la transformation spirituelle est un processus qui passe par la mort à soi-même, où la repentance est indispensable, où l'acceptation de l'œuvre de la croix l'est aussi. Voir Jésus dans un sens spirituel profond n'est pas simplement une expérience extérieure ou une recherche du miraculeux, mais un voyage intérieur de chacun de nous. Ça ne demande aucun diplôme, mes frères et sœurs, et souvent la simplicité des frères et sœurs facilite leur progression. Un voyage intérieur où l'Esprit brise notre cœur, nous libère du péché et nous permet de vivre pleinement en Christ. Le fruit de ce processus qu'on peut vivre à travers notre communion régulière avec le Seigneur tous les jours dans la prière, et c'est lui qui nous montre tout cela par l'Esprit, eh bien, le fruit, c'est une vie chrétienne simple, mais qui reflète le Christ, qui reflète les caractéristiques de Jésus. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise. Non des vertus humaines, mais ce sont des fruits qu'on trouve en Christ dans la communion avec lui. La véritable richesse de la vie chrétienne réside dans le fait qu'en Christ, nous avons tout en lui. Pourquoi cherchons des choses alors qu'il s'offre entièrement à nous? Mais c'est pas possible. Il dit entièrement, je viens à vous. Et nous, on cherche des choses. Je veux ça, ça, ça. Non, nous avons besoin du Christ entier qui s'offre en nous et nous l'avons reçu par l'Esprit et dans l'Esprit. Mais cette richesse est libérée lorsque nous acceptons le brisement tel que le grain de moutarde et le grain de blé et que nous nous abandonnons complètement à l'action de Dieu. La croix, le principe spirituel qui se cache derrière la croix, devient le moyen par lequel nous accédons à cette plénitude. Et c'est à travers ce processus de transformation que nous pouvons porter des fruits pour le royaume de Dieu. Il faut que nous acceptions de porter notre croix tous les jours, mes frères et sœurs, pour saisir et vivre ce processus qui nous mène de la mort à la vie. Un seul chemin. Il n'y en a pas d'autre, ni théologie, ni quoi que ce soit. Un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Et c'est celui-là que nous proclamons. Et c'est pour Jésus-Christ que j'ai quitté mon milieu. C'est pour Christ que j'ai quitté ma culture, ma religion. Je retire Je n'ai pas quitté ma culture. J'y adhère, je l'aime, je la protège. Mais j'ai quitté ce qui a fondé, ce qui m'enracine, ma propre religion. Parce que le Christ vaut plus que tout cela. Le Christ nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors cherchons notre Seigneur de toute notre âme, de tout notre cœur. Je ne peux que terminer par le psaume 63. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Que le Seigneur nous accompagne ensemble pour chercher ce Christ grandiose, Dieu lui-même, et le jour nous verrons au ciel, nous pourrons louer le Seigneur ensemble et nous le remercierons pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Que le Seigneur nous aide. Amen.
Amen.